Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon lundi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours de la semaine. Mais au départ, tout au long de ces 30 prochaines minutes, c'est bon pour la santé sur Canal M. Du 26 au 29 janvier, donc dès aujourd'hui, l'Institut Santé et Société de l'Université du Québec à Montréal tient sa seconde édition de sa semaine Santé et Société. Pour en savoir un petit peu plus sur la programmation, je reçois en deuxième partie de l'émission Mireille Tremblay, elle qui est directrice de l'Institut Santé et Société de l'UQAM. Mais d'abord, je me suis amusée un tout petit peu cet après-midi à demander à mes collègues quelles étaient leurs valeurs. Ce qui est ressorti, principalement le respect, l'amitié, le partage, l'écoute, l'amour, la santé et la justice. La justice, oui. Nos valeurs, évidemment, vous le savez, sont importantes. C'est en fonction d'elles, que ce soit conscient ou non, hein, que l'on détermine nos choix, nos actions. Est-ce qu'on est conscient à quel point elles peuvent donner un sens à nos vies et également l'impact que nos valeurs peuvent avoir sur notre santé? Reconnaître ces valeurs afin de mieux se connaître. J'en parle à l'instant avec Isabelle Nazar-Aga, elle qui est thérapeute comportementaliste et cognitiviste, formatrice et auteure. Isabelle Nazar-Aga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Cannes, est-ce qu'il fait beau par là?
Ah oui, il fait très beau.
Ben, petite différence, ici au Québec, il fait beau à Montréal, mais il fait très très froid. J'imagine que ce n'est pas tout à fait votre cas dans le sud de la France.
Non, 13 degrés.
Isabelle, vous n'avez pas entendu mon intro, je vais la répéter parce que je voulais votre opinion là-dessus. Tout à l'heure, je me suis amusée à demander à mes collègues quelles étaient leurs valeurs. Ils me disaient, la famille, l'écoute, l'amitié, le partage, mais ce qui était étonnant, c'est que si certains me répondaient du tac au tac, plusieurs prenaient plusieurs minutes avant de me répondre. Mm-hmm. Je me suis même fait dire « c'est quoi une valeur? » ou « attends, je peux pas te répondre tout de suite, peux-tu me laisser du temps? » Est-ce que vous êtes étonnée par ça?
Pas du tout. C'est même, je trouve, assez rare que les gens connaissent réellement leurs valeurs. Ils ont des idées. Ils ont des idées sur leurs valeurs. Pour certains, mais ils ne savent pas tout à fait la définition. Le plus souvent, ils pensent que c'est quelque chose d'idéal et ils ne le vivent pas.
Oui.
Donc les valeurs, pour nous, c'est vraiment quelque chose que l'on vit ou que l'on devrait vivre parce que c'est notre résonance intérieure, ça peut être une vocation d'ailleurs, ça peut être notre fonctionnement. C'est quelque chose qui est interne à nous-mêmes, mais que certaines personnes n'auront jamais vécu.
Et j'ai l'impression, Isabelle, que certaines personnes peuvent mélanger valeurs et qualités. Par exemple, une collègue me disait l'écoute. L'écoute, est-ce que c'est une valeur ou c'est une qualité?
Non, pas du tout. C'est un moyen même de nourrir une certaine valeur qui est l'amitié, par exemple, ou aide aux autres. Bonne écoute est une qualité. C'est un comportement même. C'est un état d'esprit, mais c'est pas une valeur. Faut savoir. La valeur, finalement, c'est à quoi ça sert d'écouter. Vous voyez, c'est la motivation profonde.
Et comment on peut départager une qualité et une valeur?
Alors, déjà, une valeur, c'est beaucoup plus puissant. C'est une expression qui a une intention quand même très profonde, de base. Et la conséquence en est complètement observable dans la vie. Prenons l'exemple de la qualité efficace et la valeur efficace. Celle-là, je la connais très, très bien. Beaucoup de gens ont de l'efficacité dans certains comportements, au travail notamment. Mais ils n'ont pas l'efficacité en valeur qui fait qu'ils peuvent ne pas être efficaces quand ils font la cuisine, ne pas être efficaces quand ils font leur ménage ou quand ils font leur jardin. Comprenez par là que quelqu'un qui a la valeur efficacité, c'est un état d'être. Il ne peut pas faire autrement que d'être efficace en tout.
Et voilà, ça teinte toutes les actions, alors, c'est ce que je comprends.
Oui, 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 tout à fait. C'est pas situationnel. C'est pas situationnel, ce n'est pas en fonction d'un contexte particulier. Aide aux autres, la personne, si elle a une valeur aide aux autres, elle est capable, sur le chemin de l'aéroport, s'il y a un accident, et en plus, généralement, elle se débrouillera pour être soit infirmière, médecin ou secouriste, la personne va obligatoirement s'arrêter, même si elle loupe son avion. C'est viscéral.
Donc, Isabelle Nazaraga, et je le dis, vous êtes l'auteur de « Je suis comme je suis », connaissez-vous vraiment vos valeurs personnelles? Donc, vous en connaissez quand même un petit peu beaucoup sur la question. Nos valeurs peuvent déterminer nos choix de vie et le boulot qu'on fera plus tard.
Oui, 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 oui. Et c'est même essentiel, puisque le plus souvent, par exemple, à la fin de l'école, de notre scolarité, on nous demande de choisir plutôt une voie en fonction d'un métier idéal, alors qu'en fait, il nous manque un morceau, c'est cette partie intermédiaire qui serait de rechercher chez chacun quelles sont ses fibres qui le font vibrer à des choses très particulières. Par exemple, il y a des personnes qui ont créativité ou imaginaire en valeur et qui vont malheureusement choisir un métier de mathématiques ou ingénieur comptable alors que ou informatique alors qu'il n'y a aucune créativité derrière ça. Et ça, ce sont des erreurs de sens, de direction, et qui sont liées au fait que les parents, les professeurs vont plutôt regarder les notes et donc les compétences, donc les qualités. Y a beaucoup de gens qui loupent leur vie finalement parce que ils sont pas du tout dans leurs bottes, ils font pas ce qu'ils doivent faire de leur vie, ils ne sont pas dans leurs valeurs. Et c'est pour ça qu'il y a des dépressions. Et on a même des gens qui continuent à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire, par exemple, un couple, alors que ça va très mal depuis longtemps, on parle d'années, où on est mal, mais parce qu'il y a une contre-valeur. Et la contre-valeur, c'est une valeur inversée, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne supporte pas. Et par exemple, la solitude est une contre-valeur. La personne ne supporte pas être seule, donc elle reste en couple, dans ce couple-là, même si... Et l'amour n'y est plus, par exemple.
Donc ça explique beaucoup de choses. Est-ce qu'une contre-valeur, c'est quelque chose qui nous nuit?
Non, pas nécessairement. Okay. Il y en a une qui est intéressante, qui s'appelle le malsain. Et au contraire, celle-ci nous fait exister et ne plus être influencée par des personnes malsaines, néfastes, toxiques, manipulatrices, perverses, etc. Et pas seulement des personnes, mais des contextes, des ambiances. Donc au contraire, il y a des valeurs qui vont nous protéger. Et puis il y a des contre-valeurs qui vont nous protéger, des contre-valeurs qui au contraire vont nous faire stagner. Et ça explique, en faisant la synthèse des deux, valeurs et contre-valeurs actuelles, pourquoi il y a des choses qui bougent en ce moment en nous et qu'il faut faire bouger, parce que sinon on reste dans la dépression et dans le mal-être. Et à ce moment-là, le fait de reconnaître cette synthèse et notamment des obstacles, par exemple, il y a une contre-valeur qui s'appelle échec. Alors on peut penser que c'est tant mieux. Ah bah elle déteste l'échec.
Alors elle va réussir.
Ben, c'est bloquant en fait.
C'est pardon
celui
quoi ?
Celui qui déteste l'échec, il a un problème de ne pas supporter l'échec. Donc généralement, il ne se met pas à son compte, il ne change pas de son travail, il ne change pas de déménagement, il ne prend pas des décisions de changement, puisque sa terreur, c'est d'échouer.
Oui. C'est bien intéressant, ça. Et si les gens s'y perdent un peu, dans votre livre, il y a vraiment un lexique, autant des valeurs et des contre-valeurs, avec des comportements associés, comme par exemple, si la réussite est votre valeur, c'est parce que vous travaillez beaucoup. On y met vraiment tous les soucis ou les interpellations que vous pouvez avoir. Isabelle Nazaraga, on pourrait penser que les valeurs nous viennent de notre famille, de notre éducation. Pourtant, je parlais avec une amie qui me disait, moi, chez mes parents, c'était la famille, la valeur. Mais pourtant, moi, c'est pas comme ça que je l'ai traduit. C'est plutôt devenu l'amitié parce que mes amis sont devenus ma nouvelle famille. Comment on hérite des valeurs ou comment on les forme?
Alors, c'est tout à fait vrai et c'est ce que j'écris. Il n'y a pas de réelle corrélation entre les valeurs de notre père, de notre mère ou de notre grand-père, grand-mère. Avec nos propres valeurs, on peut être fort surpris d'être très créatif, d'être artiste et d'avoir une mère au foyer très bonne pour le ménage et la famille et pas peu d'amis et avoir un père comptable avec une sécurité matérielle et financière prioritaire. Donc c'est fort étonnant, mais on ne sait pas d'où ça vient.
Donc ça demeure un mystère, même vous qui vous vous êtes intéressé à la question pendant des années. Mais ça peut être lié à la personnalité, j'imagine.
Bien entendu, on peut toujours rechercher des causes, mais il y a des valeurs qui sont très proéminentes à l'âge de 5 ans, comme aide aux autres, par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait...
Le partage, parfois. Oui, justice.
Pardon.
Pourtant, les adultes, les parents notamment, ont un impact sur l'éducation de leur enfant. Comment on peut guider notre enfant, l'amener à faire des choix judicieux, éclairés, mais sans non plus insister sur nos valeurs personnelles?
Je crois qu'il faut mettre de côté effectivement le fait que pour nous, prenons l'exemple en tant que parents, c'est de 40 ans environ. Sécurité matérielle et financière est primordiale. On s'attend à être moins le cas, et au Québec, c'est moins fort qu'en France. C'est-à-dire qu'il fut, il y a 40-50 ans, et même bien avant, un discours proéminent des parents qui est « si tu veux faire danseuse, danseuse étoile, chanteur, peintre, tu fais ce que tu veux, sauf que je te demande d'avoir ton bac et je te demande d'avoir un vrai métier ». Et ça, c'est parce que ça répond à la valeur sécurité matérielle et financière. Les parents pensent souvent, s'ils ne font pas de travail personnel là-dessus, que ce sont leurs valeurs qui sont les bonnes.
Oui.
Ça ne marche pas pour tout le monde, sinon on serait à peu près tous médecins ou tous juristes ou tous mères au foyer, vous comprenez. Et donc, l'idéal, ce serait quand même de chercher derrière un désir d'un jeune qui veut faire la mode, par exemple, qu'est-ce qu'il recherche dans la mode? Qu'est-ce que ça va nourrir en lui? Et s'il ne sait pas, il peut se tromper de voie, effectivement. Mais par contre, s'il sait qu'il veut créer des vêtements, et en fait, ce jeune-là, depuis très longtemps, il dessine des vêtements. Depuis très longtemps, il prend des vieux vêtements, il les découpe, il les coud. Ça se voit, une valeur.
Oui.
Donc, c'est dosé. Quand les parents détectent que la valeur est très forte chez un enfant, même si elle est très à l'opposé de leur propre valeur, je pense que c'est une très bonne idée de lui laisser faire les études qui correspondent ou la démarche pour travailler très tôt à ce qu'il l'anime profondément. Et il a beaucoup de chances de réussir.
Ce qui nous anime étant jeune peut changer 10, 20 ans plus tard, toutefois.
C'est rare.
Ah oui?
C'est seulement à cause des parents. Non, c'est rare. C'est peut-être à cause d'un mariage ou des parents. Mais s'il y a 15 ans... Vous vous sentez l'âme d'un médecin du monde, voyager ou archéologue. Et si c'est très très fort, c'est pas une lubie, c'est pas une mode, c'est pas parce qu'on l'apprend à l'école, c'est quelque chose de viscéral. Là, cet enfant-là a de très grandes chances qu'à 30 ans, il réussisse quelque chose d'exceptionnel.
Mmh.
Ouais. C'est-à-dire qu'on voit que ceux qui ont à 30 ans réussi à faire quelque chose, ça peut être un film, cela peut être un livre, c'est-à-dire être édité, cela peut être un chercheur qui a trouvé une molécule, quelque chose d'assez extraordinaire. On s'aperçoit dans sa propre biographie qu'à 15 ans, déjà, il était passionné par ce qui l'anime.
Mm-hmm. Donc, si j'entends bien, les autres, que ce soit la société ou un conjoint, peuvent avoir une influence sur la modification de nos valeurs.
Oui. Malheureusement, si on n'est pas au courant que nos valeurs nous déterminent, il y a des gens qui sont totalement ignorants à quel point elles sont influençantes pour notre existence, on peut passer à côté de sa vie.
Mm-hmm. Et bien sûr, c'est très bien expliqué dans votre livre « Je suis comme je suis », édité aux Éditions de l'Homme, Isabelle Nazaraga. Mais concrètement, on fait comment pour déterminer nos valeurs si on est un petit peu perdu, comme mes collègues là, quand je le nommais tout à l'heure?
Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai écrit cet ouvrage suite à 20 années d'exercice, de pratique avec des patients en groupe. Et ce sont eux qui m'ont dit, ça serait bien que toutes ces explications que vous nous faites soient écrites dans un livre. Ce serait bien que vous l'écriviez. Mm-hmm. Et maintenant, je l'ai écrit, ce qui fait que c'est un ouvrage quand même de référence, c'est un manuel de référence, de recherche personnelle qu'utilisent aussi les professionnels qui font des bilans de compétences,
mm-hmm.
Des psychologues qui cherchent à aider les enfants dans une nouvelle orientation. Quand je dis enfants, c'est les adolescents qui vont choisir une fac ou une université ou pas du tout, un autre métier. Donc c'est un support qui est, à mon sens, complètement fondamental. Maintenant qu'on sait les conséquences de vivre à côté de ces valeurs, ces conséquences sont la dépression et le mal-être.
Mm-hmm. Et comment on peut... Est-ce que c'est en se faisant des tableaux, en faisant une liste, en s'observant soi-même, on peut se dire, ben moi, c'est la famille, ou moi, c'est le travail, ma valeur. Est-ce qu'il y a un moyen de déterminer ça?
Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai quand même écrit un livre pour qu'il serve à répondre à cette question.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que quand je décris une valeur comme aide aux autres, prenons ça, les premières lignes que j'affirme, c'est la façon dont vous le vivez. Et si c'est non la première ligne, non la deuxième ligne, non la troisième ligne, ben, c'est que vous ne l'avez pas. C'est-à-dire que j'ai fait en priorité les choses qui étaient, les comportements qui étaient les plus logiques avec cette valeur. Souvent, les gens cochent une valeur ou marquent une valeur s'ils n'ont pas de tableau de référence. Et dans leur vie, c'est faux. Moi, je vois d'ailleurs pas mal d'hommes qui me disent, moi, ma valeur, moi, ce qui est le plus important, c'est ma famille. Or, ils rentrent à 21h, 22h. J'en connais un qui me parlait de ne pas avoir revu ses enfants depuis 3 semaines parce qu'il travaille pas mal à l'étranger. Mais en fait, il est complètement autonome. Il pourrait très bien reprendre l'avion et revenir, c'était pas si loin que ça, c'est même un train. Non, la famille n'est pas au cœur, d'ailleurs la famille l'a quitté. Mais il y a des gens qui aiment se faire une idée, aider sa voisine par exemple, ou avoir envie d'écouter ses amis qui vont pas bien, ça fait pas de vous une personne qui a la valeur aide aux autres. Aide aux autres, soit vous êtes bénévole plusieurs fois dans le mois ou 2-3 fois par semaine, soit vous êtes professionnel, et le plus souvent vous êtes professionnel. Soit vous aider sur le plan psychiatrique, psychologique, soit vous aider sur le plan médical, soit c'est sur le plan social. Mais il y a une vraie attitude, une réelle attitude qui fait que vous nourrissez cette valeur.
Et quand on lit votre livre, Isabelle Nazaraga, il faut être prêt à faire ces deuils-là parce qu'on pense toute notre vie qu'on a eu telle ou telle valeur. Et justement, on fait le test, on répond aux questions et on se dit, eh ben non, ça ne correspond pas du tout à mon profil. Et finalement,
alors le deuil est vite fait parce que les gens trouvent ça assez amusant.
Ouais.
C'est assez ludique à faire. Et du coup, ils ont plutôt de l'étonnement et ils sont assez charmés par leur découverte.
Ouais.
Donc, ce n'est pas un vrai deuil, hein. C'est « waouh, je me connais mieux ». C'est une nouvelle grille de connaissance de soi.
Et tout ça amène évidemment énormément de curiosité envers soi-même et une nouvelle forme de vitalité. « Je suis comme je suis », connaissez-vous vraiment vos valeurs personnelles, édité aux Éditions de l'Homme, Isabelle Nazaraga. Ça a été un plaisir de vous parler. Je rappelle que, en plus d'être auteure, vous êtes formatrice et thérapeute comportementaliste et cognitiviste. Eh bien, c'est le soir à Cannes. Alors, bonne fin de soirée.
Oui. Merci beaucoup.
Au revoir.
c'est un plaisir. Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Bonjour Mireille Tremblay.
Bonjour.
Vous êtes, vous avez deux grands postes, là. Premièrement, vous êtes directrice de l'Institut Santé et Société de l'UQAM, en plus d'être professeure au département de communication sociale et publique. Aujourd'hui, c'est peut-être votre deuxième fonction qui nous intéresse davantage parce que c'est lancé aujourd'hui, là, ça débute dès maintenant, cette semaine santé et société qui est menée par l'Institut Santé et Société de l'UQAM. Donc, on vous a dérangé là, un petit peu de vos fonctions. Là. Vous étiez
exact.
Sur place, mais bon, on est à côté de l'UQAM, c'est la bonne nouvelle. D'abord, curiosité, l'Institut Santé et Société. Moi, je suis une ex-étudiante de l'UQAM. Deux, j'anime une émission de radio sur la santé. Je ne connaissais pas cet institut-là.
L'Institut Santé Société a une dizaine d'années, mais moi, je suis à la direction de l'Institut depuis 3 ans. Je suis directrice sortante. J'ai terminé mon mandat la fin de l'année 2014, mais je finalise avec la Semaine Santé Société. Donc, la semaine est à sa deuxième édition. L'Institut a une série de fonctions, de mandats ou de responsabilités ou de projets au cours des ans. Et actuellement, on regroupe environ 145 professeurs, chercheurs, qui est principalement à peu près 120 qui sont de l'Université du Québec à Montréal, de toutes les facultés et de plusieurs disciplines. Mais maintenant, on invite aussi, il y a des chercheurs qui sont membres, qui sont de l'Université de Montréal, de l'UQTR, de l'Université de Sherbrooke. Donc, on a des professeurs-chercheurs de plusieurs universités. Et on a aussi environ 120 ou 130 étudiants, membres de l'Institut, donc qui viennent de plusieurs facultés, plusieurs écoles, et quelques membres associés des centres et des instituts de recherche.
C'est la deuxième édition de cette semaine santé et société. Elle vient d'où, cette initiative-là?
Elle vient de l'Institut, elle vient du congrès de l'ACFAS il y a 2 ans, je crois, il y a 3 ans, en fait. Il y avait un congrès de l'ACFAS.
C'est quoi l'ACFAS?
L'ACFAS, qui est l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, qui fait un congrès francophone à tous les ans, en général au mois de mai, dans une des universités du Québec. Il doit avoir, écoute, l'ordre du millier de conférences à l'ACFAS.
Wow.
Donc, plusieurs colloques. Il regroupe des colloques. Alors, des chercheurs peuvent organiser des colloques. Et il y a aussi un ensemble de communication, une conférence individuelle. Donc, c'est une très grosse machine qui regroupe des chercheurs de la francophonie.
Et les objectifs sont?
Donc, quand on est allé à l'ACFAS, nous avons eu, dans ce contexte-là, l'opportunité de produire un colloque sur la santé et la société. Et à cette époque-là, on a identifié environ 4 thèmes, dont la santé mentale, la gouvernance, il y avait les arts et la créativité. Je crois qu'il y avait l'immigration, mais on s'est mobilisé, un certain nombre de chercheurs, autour d'un certain nombre de thèmes. À ce moment-là, il y a quelques années, c'était au Palais des Congrès à Montréal. Et l'année suivante, on s'est dit, notre population est montréalaise, c'est les professeurs, les étudiants de l'UQAM ou nos partenaires des environs. Donc, on va organiser une semaine santé-société sur une diversité de pôles de recherche et d'expertise. Et on a fait notre première édition l'année dernière. Et cette année, on est à la seconde édition.
Et là, il y a différents thèmes qui sont abordés. Entre autres, un des grands thèmes qui m'intéressait bien, le handicap, mais il y en a d'autres.
Oui. On a regroupé tous les professeurs. En fait, il y a peut-être 90 équipes de recherche à l'UQAM dans le champ de la santé. Et on a regroupé les 140 membres pour donner de la visibilité à leur expertise autour d'une dizaine de thèmes que sont art, créativité, santé, la question de la communication santé, gouvernance, handicap et société qui vous intéressent, immigration et santé, santé environnementale et santé au travail, santé familiale, santé mentale, santé sexuelle. Donc, ce qui nous donne une série de thèmes. À l'intérieur de chacun des thèmes, notamment dans le cadre de la semaine, il y a un responsable coordonnateur qui organise un séminaire qui invite ses partenaires de différentes universités, étudiants, chercheurs, et qui vont débattre d'enjeux majeurs relativement à ce thème-là. C'est très contemporain, très innovateur, on recherche les innovations, on travaille beaucoup. L'UQAM a une couleur de travailler de façon très proche avec les agents de la communauté.
Oui,
alors,
oui.
Avec les personnes, avec les organismes communautaires, avec les intervenants, les dirigeants, les représentants d'établissements. Donc, on travaille en collaboration avec la communauté, ce qui fait qu'on est très près des enjeux contemporains. Par exemple, dans le domaine de la gouvernance, il y a deux séminaires qui sont sur les soins en fin de vie. Il y en a un qui travaille, un ou deux séminaires qui travaillent sur la réforme actuelle des services sociaux de santé. Art et créativité, il y a toute une mouvance autour d'art et créativité qui est en émergence, justement, notamment avec les personnes en situation de handicap.
Et je pense que c'est votre volet le plus, en tout cas qui m'a apparu le plus, peut-être pas complet, c'est pas le bon terme, mais le plus foisonnant, créativité. Et moi, ça me faisait sourire parce que l'UQAM est une université où la créativité est souvent mise de l'avant et ça se transmettait même dans cette semaine santé et société. Les étudiants peuvent y participer.
Exact.
Mais j'imagine que c'est ouvert à plein de monde.
C'est ouvert au public en général, c'est-à-dire l'ensemble. Évidemment, ça s'adresse plus particulièrement aux chercheurs, étudiants, intervenants, décideurs, les gens qui sont intéressés au domaine de la santé, des services sociaux. Il y a même un volet promotion de la santé où il y a des activités physiques ou des activités de promotion
les
de la santé.
Défis
qui sont
santé,
les 8 défis
ça.
Santé. Donc, on s'intéresse aussi à la promotion de la santé. On a un programme de promotion de la santé qui génère... qui coordonne un ensemble d'activités de promotion de la santé.
Ça débutait aujourd'hui, 26 janvier. Est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire, Mireille Tremblay?
Oui, parfaitement. Oui. On peut s'inscrire en se présentant sur place. C'est au pavillon Judith Jasmin, à la réception vis-à-vis la coop, à la sortie du métro. Alors, il y a une réception, il y a une table d'information et d'accueil et les gens peuvent s'inscrire sur place. Si
okay.
C'est pas déjà fait. Et l'information est disponible en ligne.
Et ce, jusqu'au 29 janvier, iss.ucam.ca. Ça sera également sur notre site. Mireille Tremblay, je rappelle, vous êtes directrice de l'Institut Santé et Société de l'UQAM. C'est la deuxième édition de cette semaine Santé et Société qui est organisée par votre institut. Et, je le rappelle, plein de séminaires, de conférences et de sujets très novateurs. Merci beaucoup de vous être déplacé malgré le froid. Ça a été un plaisir de vous rencontrer.
Merci pour l'invitation.
Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Marianne Paquette au micro, qui vous donne rendez-vous dès demain. Mais je vous rappelle, on est en rediffusion à 17h si vous nous avez manqué aujourd'hui en direct. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.